Salut Luc.
Salut Patrick.
Est-ce que tu es rassuré par les propos du ministre?
Un peu, oui. Moitié, je dirais. Un gros 50%. D'abord parce que il a évoqué la loi 40, là, et de dire, ben, tu peux pas demain matin t'acheter une ferme, bâtir une fermette de 5 à 10 hectares, te bâtir et dire, je vais faire un projet agricole, au bout de 2 mois, ça marche pas, je le fais pas. C'est dans l'autre sens que ça se produit. Et là, je l'ai appris en l'écoutant, d'ailleurs, c'est que tu dois d'abord faire ton projet agricole, il doit exister pendant plusieurs années, et là, après ça, tu peux démontrer que c'est ton activité principale, c'est ta première source de revenus, et tu dois démontrer la faisabilité du projet. Mmh. Fait que ça limite beaucoup l'idée que ça puisse servir de
prétexte,
ça.
Disons.
Oui, de prétexte.
Tu dis, t'achètes, tu dis, ah, moi, je vais faire de l'agriculture, mais bang, t'en fais pas.
Bon, ceci étant dit, ça couvre pas tous les angles, il me semble, parce que, puis c'est drôle, il est souvent répété, s'il y a des angles morts, on va les couvrir, s'il y a des angles morts, on va les couvrir, mais un projet de loi, d'habitude, ça arrive avec les couvertures des angles morts built-in. Ça devrait être dedans, tu sais, et je suis surpris qu'ils disent, j'y travaille depuis 2019, ben, si tu travailles depuis 2019 sur le projet, on aurait pu voir, je sais pas, moi, un livre blanc ou quelque chose, ou justement, on voit une couverture des angles morts. Parce que il y a une caractéristique des petites fermes, c'est la pérennité. Elles sont très souvent abandonnées, en moyenne après 9 ans. Donc,
je ne sais pas si tu as vu, il y avait une lettre dans la presse aujourd'hui là, de Diane Parent, qui est professeure émérite en sciences de l'agriculture, de l'alimentation. Elle a dit, tu sais, dans sa lettre, ce qu'elle dit, c'est que ça prend un sérieux débat là-dessus. Un sérieux débat s'impose, n'en déplaise au ministre. Okay? Et moi, j'ai échangé avec elle aujourd'hui. Ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a un faible taux de persistance en agriculture. 80% abandonne avant 10 ans. Puis la question dans le milieu agricole, c'est qu'est-ce qui va arriver des parcelles une fois qu'elles vont avoir été morcelées?
Bien, c'est ça qu'il dit. On est couvert par la loi 40, mais ce bout-là n'est pas couvert.
Oui.
Ce bout-là n'est pas couvert. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais 50%. Parce que si tu peux pas te partir sous des fausses représentations, une fausse ferme, mais tu peux acheter une vraie ferme puis t'en servir comme simplement une maison avec un grand terrain autour. Ça, tu peux. Et il y en a des centaines, voire des milliers. Donc là, je trouve que c'est un peu faible. Puis quand il dit, oui, on va discuter de ça avec les partis d'opposition, on va regarder ça en débat parlementaire, ben, c'est une drôle de réponse. Je trouve que d'habitude, tu déposes pas une loi en disant on va l'améliorer en débat parlementaire. Tu déposes une loi, elle est déjà.
Non, mais c'est ça. C'est là que le gouvernement a consterné beaucoup de monde. Pourquoi pas avoir un projet de loi là-dessus? Je comprends la nécessité d'aller plus vite dans un projet de loi omnibus, mais tu sais, c'est tellement important qu'on ne perde pas de terres agricoles.
Absolument.
Il y a bien des gens qui disent que ça aurait dû faire l'objet d'un projet de loi unique.
Bien, absolument. Puis, il y a d'autres caractéristiques aussi qui font que, quand tu divises, quand tu morcelles le territoire, ça augmente le coût la valeur des terres, parce que c'est pas tout le monde qui veut s'acheter une terre de 101 hectares, mettons.
Oui.
Mais de 10 hectares ou de 5 hectares, oui, il y a beaucoup de monde. Et l'UPA a calculé qu'il y avait une grosse augmentation de la valeur des terres à cause de ça. Alors, quand il nous dit, on va regarder s'il y a des problèmes, bien, il y en a un problème. Il est déjà sur la table depuis des années. Là. Tu peux pas attendre d'être rendu en chambre, à l'Assemblée, pour en discuter. Il existe ce problème-là. Donc, la première chose, tu disais, c'est la persistance des exploitations agricoles. La deuxième chose, c'est le coût des exploitations agricoles. On est chanceux, on a plus d'agriculteurs qu'avant, mais est-ce qu'ils vont durer, ces agriculteurs-là? C'est des questions importantes. C'est surprenant qu'ils nous répondent « Faites-vous-en pas, je vais checker ça, j'ai entendu, on va régler le problème. »
Changement de sujet, Luc, je veux qu'on parle du dossier du REM. La presse a publié une série d'articles là-dessus. C'était en fin de semaine et aujourd'hui dans la presse. Qu'est-ce qui t'a frappé là-dessus?
Bon, premièrement, il n'y a pas une photo de tous les magnifiques projets qui ont été photographiés par la presse et qui avaient aussi été déposés par CDPQ Infra il y a quelques mois, quelques-unes avaient été déposées. Il n'y a pas une photo qui correspond à la réalité du REM.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Parce que le REM, il fonctionne avec des caténaires, c'est-à-dire qu'il y a des poteaux avec des fils sur la voie. Donc, tu as une structure de béton qui soutient un tablier, et sur ce tablier-là, tu as des poteaux avec des fils. Il n'y a pas une photo qui est comme ça. Dans toutes les photos, on dit « Regardez comment c'est beau un REM aérien. Regardez comment c'est possible de faire ça beau. » Je m'excuse, il n'y en a pas une qui correspond à notre réalité. Alors, déjà en partant, moi, je maintiens le doute. Je maintiens le doute sur la capacité d'intégrer ça dans le paysage. La deuxième chose, c'est que tous les chantiers qui ont été, pas les chantiers, mais les systèmes d'exploitation qui ont été visités par la presse, arrive à la même conclusion. Lorsqu'on est en dehors du centre, dans des quartiers en développement qui sont industriels, mais en voie de devenir résidentiels ou partiellement, etc., mixtes, là, on est en aérien. Lorsqu'on arrive dans le centre, on est en souterrain, dans toutes les villes visitées. Alors, de dire, ben oui, on est allé à... Il y a des sections aériennes. D'accord, elles sont où, les sections aériennes? Est-ce qu'elles sont au centre-ville? Et la réponse formellement, par exemple, de la ville de Paris, c'est non, on ne fait plus jamais ça. Copenhague non plus. Donc, ça, c'est le deuxième point très important à prendre en considération. Le troisième point, c'est que on ne fait pas l'aménagement d'un réseau, puis après ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire après? C'est on fait un aménagement de réseau avec son environnement. Et ça, c'est important. Le réseau, t'as ton lien aérien, par exemple, qui passe. Si en face, t'as un centre d'achat, un McDonald's, puis un concessionnaire automobile, c'est pas pareil que si en face, t'as du résidentiel. Et il y a un calcul très précis qui est fait dans les autres villes pour voir le bruit. Comment le bruit va avoir un impact sur le résidentiel autour. Et on construit le résidentiel en fonction de ça et on dessine tout le projet d'un seul coup. Et ça, ça donne des projets merveilleux parce que là, tu crées des nouveaux quartiers. Tu as vraiment un magnifique développement de la ville qui peut naître à certains endroits avec une nouvelle architecture, avec des nouvelles petites rues commerciales, etc. Et ça, c'est pas du tout dans le mandat de la CDPQ Infra. Donc, je m'inquiète pour ces trois raisons-là.
On s'en reparle demain, Luc. Merci. Puis mets ton casque en vélo.
Oui, je vais le mettre tout de suite, là. OK, bye.
17h23, M. McSween s'en vient.